carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Jean-Paul Philippe voit dans la pierre un paysage de mémoire comme un passeport pour l'immobile. À travers ses dessins, ses marbres gravés, ses marelles, ses blocs dressés, stèles ou capteurs de parcelles aériennes, il dévoile une familiarité évidente avec la notion de dimension passant sans contrainte du grand espace, de l'espace public ou de l'espace naturel à ciel ouvert à la sculpture de plus petites dimensions. J'aime faire de la poussière, j'aime cette chose qui monte du bloc, du massif, cette chose très aérienne, nous dit-il. Jean-Paul Philippe, bonjour.
Bonjour.
Comment vous définissez-vous ?
Alors là, vraiment, c'est la question la plus terrible. C'est l'autre qui me définit, c'est pas moi. Et de temps en temps, par rapport à ce regard, je me dis, tiens, peut-être que je fais ça. Et quelquefois, il me semble croire, je me laisse croire que s'il y a cette question, il y a une interrogation en face. Et puis après, c'est tout l'entretemps. Voilà. Je ne sais pas du tout
Définir. Vous définiriez comme un peintre devenu sculpteur, un sculpteur, un artiste, c'est trop vague, c'est trop connoté.
Oui, un peintre devenu sculpteur, c'est la chose la plus simple et la plus logique aussi, parce que c'est vrai que très tôt, j'étais sûr d'être peintre, enfin, ou de choisir ce type d'expression. Et puis là, je vais en profiter pour dire qu'effectivement, c'est toujours à défaut d'avoir su parler ou de parler, parce que je trouve que les mots étaient pour moi la chose la plus importante, mais je n'osais pas les aborder. Et peindre ou dessiner était le biais. Et là, après, je me suis perdu. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Voilà, et ça dure depuis, je ne sais pas, un bon nombre de
depuis 1973, d'années. Vous avez, vous êtes orienté davantage sur
voilà,
ce 73, passage à la sculpture.
Voilà, j'ai plus abordé et consacré de temps à la sculpture proprement dite, c'est-à-dire, en tout cas, à la confrontation avec un volume. Avant, j'étais peintre, voilà, je ne pensais pas même... Je ne sais pas si je ne pensais pas sortir de ça. Mais en tout cas, il y a un moment donné où j'ai probablement eu envie de contourner cette chose-là. Pourquoi ? Je ne sais pas trop.
Vous ne savez pas ?
Je sais. Enfin, si, je sais plus ou moins maintenant, à force qu'on me pose la question, j'essaye de répondre. Donc, j'essaye de trouver une réponse possible pour les autres. Mais c'était vraisemblablement l'envie, justement, d'aller voir derrière ou d'aller voir à côté. Je ne pouvais pas être tout le temps dans cette solitude d'être devant quelque chose, voilà. Et je me disais qu'il fallait rentrer dedans ou
pouvoir tourner
enfin,
autour,
aller dedans. Et c'est dedans. En fait ce qui se passe à chaque fois quand on est devant une architecture ou devant une sculpture, on est confronté justement à l'espace. Mais c'est son propre corps qui est confronté à l'espace, c'est pas son esprit. Voilà. Alors comme je suis pas beaucoup spirituel, j'ai voulu prouver cette chose-là. Donc j'éprouve. Voilà, c'est
tout. Vous éprouvez.
J'éprouve, voilà.
Éprouver.
Voilà. Éprouver l'espace et puis partager cette épreuve avec d'autres, voilà. Et en fait, la peinture aussi, c'est presque la même chose. Mais c'est une autre... Il y a un rapport physique qui est tout à fait... Ce rapport physique avec la peinture n'est pas aussi probant, voilà.
Donc la sculpture, c'est le passage aussi en trois dimensions, bien sûr, au travail en trois dimensions. Mmh. Vous dites que vous aviez besoin de vous confronter à ça. Vous ne savez pas trop comment c'est arrivé, mais dans votre travail, entre les peintures qui ont été présentées récemment lors de votre rétrospective au musée Ferney-Branca à Saint-Louis, il y avait quelques toiles exposées de ce temps où vous étiez davantage peintre. Et là aussi, il y avait, j'allais dire, des morceaux de corps, des mains. Je pense à votre travail sur Métro. Et on retrouve ce rapport ou cette utilisation du corps absent, puisque c'était que des mains sur une barre. Et on retrouve dans vos sculptures, par exemple, je pense à vos grands sièges, cette idée du corps qui n'est pas là tout en étant là, ou qui invite le corps. Puisque vous parliez à l'instant du rapport au corps, en fait.
Oui, du rapport physique, oui. Mais là, je ne sais pas, par exemple, c'est la première fois que j'entends cette analyse.
Oh, ce n'est pas une analyse.
En tout cas, cette observation, quand je faisais ce métro... Effectivement, c'était les sensations d'abord que j'éprouvais parce que je le prenais tous les jours. Je vivais à ce moment-là essentiellement dans cet univers. Et j'étais probablement, en les revoyant 40 ans après, parce que je les avais vraiment laissés de côté et je ne pensais même pas un jour les montrer. Il y a effectivement cette sensation qu'il y a une douleur, pas un refus, mais une absence. C'est-à-dire qu'on sent qu'on soustrait le corps à son activité, qui pourrait être normale. Et alors, c'était cette angoisse. C'est pour ça, peut-être, d'ailleurs, que j'ai fui aussi cette vision et ce type de vie. Il s'est passé quelque chose de cause à effet, probablement. Voilà.
Vous vivez entre la France et l'Italie ?
Oui, depuis pas mal de temps. Oui.
Que vous apportez de lieux différents ? Vous pourriez-vous passer de l'un ou de l'autre ?
Non, c'est justement, c'est probablement un déséquilibre équilibrant. La vie est faite d'accidents, et puis elle passe plus vite qu'on ne le perçoit soi-même. Donc on s'aperçoit après que c'est peut-être ou trop tôt ou trop tard, mais la vie s'est passée. Voilà. Donc je suis en équilibre, probablement, entre ces voyages. Voilà.
Vous êtes particulièrement attaché à l'Italie depuis vos années de formation, et puis vous y avez ancré, au-delà de vos sculptures habituelles, j'allais dire, toute une sculpture ou une œuvre sur un site qui s'appelle le site transitoire, dont on va sûrement parler au cours de l'émission.
Oui.
Je voudrais juste revenir à une petite chose. Comment vous situez vos années de formation dans le travail qui est le vôtre aujourd'hui ? Est-ce que c'est un héritage ? Et quel est-il ?
Alors là, ça va être très très long à raconter parce que, par exemple, là, dans l'endroit où on est, on aperçoit la Seine. En face, il y a le Louvre. Donc, il y a les quais. Je ne sais pas ce que je pourrais, ce que je peux raconter, par exemple, que le Louvre me faisait peur et que je ne suis jamais entré au Louvre avant l'âge de 17 ou 18 ans, ou 17 ans. Non, j'exagère peut-être un peu, 17 ans, et alors que j'avais fréquenté tous les musées d'Italie, puisqu'à 15-16 ans, j'ai eu envie de partir là-bas, faire un voyage, et que c'est là-bas que j'ai eu la révélation de ce que pouvait être, justement, ou la peinture, l'architecture, ou la sculpture, et d'une manière tout à fait autodidacte. C'était un voyage comme ça, improvisé, avec mon frère, mais avec une véritable volonté de ne voir que ça. C'est-à-dire que j'étais très attiré. Probablement que j'étais intimidé par mon propre pays, qui m'interdisait cet accès. Je le ressens aujourd'hui. Et quand je suis revenu, d'ailleurs, je me suis présenté à l'école des Beaux-Arts. Je travaillais, je faisais des petits boulots pour vivre, survivre. Et dans cette présentation aux Beaux-Arts, c'est très curieux, j'ai très envie de le dire, j'avais été reçu par quelques... Enfin, à ce moment-là, il y avait un concours. Et on m'a dit, mais c'est impossible. Ce que vous faites, vous nous bluffez. Voilà. Et je me suis juré de ne plus jamais remettre les pieds dans une institution française. Parce que, véritablement, c'était effrayant. Voilà. On ne voulait pas croire qu'un gamin de 16 ans parte tout seul et puis obtienne... même pas, ne demandait rien, mais qu'on accueillait.
Et vous avez fait de belles rencontres dans ce voyage.
Très belles rencontres.
Au moment de votre adolescence, 16 ans, c'est vrai.
Oui,
c'est très
parce qu'au fond, moi, je me prenais déjà pour un adulte, parce que j'étais malheureusement précoce. Mmh. Alors, ce qui fait que j'ai toujours un petit peu, j'avais même honte d'être jeune. Mmh. Et de retour, ici, voulant entrer, par exemple, à l'école des Beaux-Arts, on faisait toutes les épreuves, et puis après ça, on présentait un dossier. Et ce dossier était fait, justement, de ces études que j'avais fait là-bas, seul, absolument seul. Et on ne l'a pas cru.
Oui.
Voilà. Il y en a une partie qui sont passées dans la Seine, là, d'ailleurs. Parce que j'étais tellement effrayé de ce genre de jugement que je me disais, mais... Et là, je ne serais pas grossier, mais j'en pleurais volontiers. Oui. Une formule italienne m'a fait un coup. Et voilà, et puis après, ben, on s'apaise. Et puis après, il y a la nécessité de vie, de survie, qui fait que je suis resté longtemps à travailler ici et à continuer. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis là. Alors, ça
vous avez, alors
c'est
vous...
un peu décousu, hein, ce
non,
que je vous raconte.
Pas du tout.
Voilà,
vous avez
les avantages des interviews
vous
impromptus.
Vous êtes rentré ou pas, alors, finalement, aux Beaux-Arts ?
Après, je suis rentré l'année d'après.
D'accord.
L'année d'après, en gommant absolument toute cette expérience.
Douloureuse.
Voilà. Et après, je n'y suis resté que pour le restaurant universitaire.
Donc, à la question Où vous situez-vous en homme libre ?
Eh bien, je ne sais toujours pas. Non, je ne sais toujours pas. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'au fond, si on agit de cette manière, si on peint ou si on sculpte, en tout cas pour moi, je pense que c'est simplement un acte de fuite. De fuite, et entendons-nous, c'est-à-dire de liberté. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pratiquement l'impression que l'univers est une espèce de prison. Enfin, c'est-à-dire que c'est à cause des images qu'on nous a inculquées. Hein. Et ça, je m'en amuse, parce que j'aimerais bien, justement, trouver l'image exacte un jour. Et ça, je sais que je ne le trouverai pas, donc ça m'a encore plus mélancolique que la mélancolie. Mais on cherche à s'échapper, voilà. Et en s'échappant, parce qu'on essaye de trouver quelque chose, voilà. C'est tout. Mais ça paraît dérisoire, tout ça. On ne parle pas du travail.
Vous parlez peut-être de l'essentiel, je ne sais pas. En tout cas, vous avez choisi de travailler la sculpture avec la pierre.
Oui.
Vous avez échappé, dans ces années 70, dit-on, à cet attrait, à la mode du travail du métal, qui faisait quand même un peu fureur. Mais
oui.
Vous...
Non, mais moi, par exemple, à cette époque-là, ce choix, parce que pour vivre ou survivre, en fait, peut-être aussi que ça a un lien avec la sculpture, c'est que je m'intéressais beaucoup à l'architecture, et même l'architecture intérieure, puisque je ne pouvais pas, je n'étais pas architecte. Et puis, comme un type qui cherche à survivre, il n'a aucune formation, il apprend simplement sur le tas et à cause des nécessités qu'il implique dans un moment précis. Et donc, j'avais eu l'occasion, au contraire, de travailler avec le fer ou d'aborder des matériaux. Mmh. Mais je trouvais qu'il ne servait en rien l'expression que je recherchais. Voilà. Et donc, ce n'est pas un déni de ces matériaux, c'était simplement, je ne m'accordais pas avec eux ou ne s'accordais pas avec moi, je ne sais pas. Mais voilà.
Vous dites, j'avais besoin du volume, d'une matière solide à affronter.
Oui, affronter, c'est incroyable.
C'est un peu dur.
Oui, non, mais je suis...
Ça vous ressemble moins, disons.
Oui, mais une pierre, c'est gentil. C'est profondément silencieux et gentil. C'est, en plus, il n'y a aucun humain contemporain qui peut se prévaloir du fait de l'avoir créée, qu'elle vous laisse une entière liberté et qu'on se doit, justement, par cette générosité qu'elle a, d'être extrêmement humble par rapport à elle. Voilà. Et c'est vrai que ça a été une découverte, les carrières de Carrare.
Qui sont mythiques.
Et puis toutes les carrières après.
Oui.
C'est-à-dire... Même avant de voir les carrières de Carrare, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'étais dans une situation justement minérale où il y avait un type d'extraction, de quelque nature que ce soit, j'avais toujours le sentiment que cette chose produite, cette chose offerte de la terre était exceptionnelle, voilà. Et puis, pousse à la méditation. C'est pour ça faire de la poussière. Moi, j'ai employé cette expression parce que vraiment, à chaque fois qu'on attaque une pierre, on sait très bien qu'on la réduit. On réduit une partie d'elle-même en poussière. Voilà. Mais le plaisir qu'elle nous permet, voilà, donc il faut l'honorer.
Où puisez-vous votre inspiration ?
Je ne pense pas avoir d'inspiration. J'ai l'impression que chacun de mes gestes n'a pour but que de redonner une émotion perçue. Voilà.
Vous parleriez d'émotion perçue, pas forcément de vision, mais d'émotion perçue.
Oui.
C'est ça, oui. La recherche tourne autour de ça.
Si je regarde une chose qui m'émeut profondément, ou si je reçois qui m'émeut ou qui me scandalise et tout, elle me provoque automatiquement. Et j'essaye de redonner, ou alors, émotion, sensation, alors là, il y a un débat à faire, et puis il y en a qui l'ont fait. Il y a eu des querelles sur l'émotion, la perception, la sensation, le sentiment, et tout. Là, on n'a pas le temps.
Tous ces mots, de toute façon, c'est le mot d'émotion qui ressort.
Oui, même s'il est décrié aujourd'hui et s'il a tenté d'être banni, parce qu'il faudrait, paraît-il, ne pas avoir d'émotion ou ne pas montrer son émotion. Mais ça, ce sont des attitudes, voilà. Alors, je me fiche un peu des attitudes aujourd'hui.
Parmi l'ensemble de vos œuvres, est-ce que vous parlez de séries dans votre œuvre? Est-ce que, par exemple, les stèles, les roues, les chariots, j'évoque là des thèmes de série concernant votre travail. Est-ce que vous pensez que c'est une catégorie possible d'entrée dans votre œuvre ou pas? Ou est-ce que vous travaillez aussi sur ce thème de la série quand vous découvrez une forme ou des formes qui vous inspirent particulièrement?
Non, je ne dirais pas série. Par exemple, dans le livre là que Vous voyez les...
Ah, un très très beau livre, juste j'en dis deux mots, c'est le livre publié par le Fonds Mercator qui s'appelle Jean-Paul Philippe, Archéologie intérieure. Ce très très beau livre, il y a effectivement plusieurs thèmes qui sont regroupés. Autour de quel fil conducteur ? Celui de la poésie ? Puisque ce sont des photos accompagnées de textes.
Oui, alors ça je tenais beaucoup à ce que ce livre soit non pas un livre, une sorte de catalogue d'images, et que toutes ces images soient articulées et rendent hommage aussi à certains écrivains qui ont accompagné ce travail au cours du temps, notamment Bernard Noël et puis Antonio Prete. Et je voulais qu'il y ait une interpénétration entre les images et les mots. Voilà. Donc ça, c'était un vœu qui a été réalisé et j'en suis vraiment très très content. Et pour revenir à votre première question sur les séries, il ne s'agit pas de séries, il s'agit de thèmes. C'est-à-dire, c'est pour ça, par exemple, bon, un jour j'ai fait une roue, et puis après des chariots, et puis après la roue, le chariot peut penser au temps, donc c'est ces cadrans solaires, je ne sais plus d'ailleurs, je raconte là en vrac. Et c'est le fait, au fond, de manipuler une forme, et puis de la pousser à son paroxysme, enfin, ou du moins essayer. Donc pendant un certain temps, on travaille et on met en situation cette forme. Et puis après, on passe à une autre forme, et la forme précédente revient sous cette forme, ou elle revient bien plus tard. Et c'est pour ça que le livre, par exemple, il est...
séquencé,
sans être,
dire.
Oui, séquencé, voilà. Ouais. Et je crois que... Bon, c'est tout à fait normal, c'est-à-dire, si on fait un chariot, on en fait 10, mais on fait jamais le même. Et voilà, et ça, je me suis toujours refusé à la série. Et c'est une catastrophe d'ailleurs pour les marchands, mais c'est un bonheur pour l'artiste qui ne s'ennuie pas. Voilà, je me suis jamais ennuyé à faire. Alors au moment où tout d'un coup je suis distrait par une autre envie, je passe à cette autre envie. Et alors aujourd'hui, avec le temps, comme ça, avec le recul, je me dis tiens, j'aurais pu pousser ça un peu plus, ou j'aurais pu faire. Mais rien n'empêche qu'effectivement une partie de cette forme renaisse dans une avenir. Quoi.
Alors, il y a une première grande thématique autour qui s'appelle l'immobile. Mmh. C'est pas l'immobilité.
Oui.
C'est un rapport au temps, là, à travers vos portes, vos stèles et vos autels. C'est...
Parce que l'immobile, effectivement, probablement que tout en étant profondément heureux de pratiquer la sculpture, il y a une forme de frustration dans la mesure où elle est là, elle est immobile. Voilà. Et donc il faut faire croire qu'elle peut bouger, ou du moins qu'elle peut faire rêver. Voilà. Et probablement, voilà, c'est né comme ça, c'est tout. Et je n'ai pas justement l'intention de faire des mobiles, je n'ai pas du tout l'intention d'animer les formes que je fais, mais l'immobile... Pour moi, d'ailleurs, le mot immobile, il est, lui, en lui, mobile. Il offre
déjà le mouvement dans sa racine.
Le mouvement, voilà. Et donc, je ne sais pas, comme je suis d'un naturel plus nomade que sédentaire, ça me convenait peut-être de raconter n'importe quoi.
Comment vous aimez signifier l'absence ? C'est aussi une autre de votre grande thématique.
Bah, parce qu'il y a... Enfin, ça va être complètement... presque idiot de dire qu'il n'y a rien de plus présent que l'absence. Enfin, les choses qui vous sont chères et qui vous manquent sont les plus évidentes. Et je crois que quand, pour signifier l'absence d'une ou de plusieurs personnes, la chaise m'est toujours apparue comme l'évidence. Mmh. Voilà. Et très probablement, parce qu'on m'a posé tellement de questions par rapport à ça, que j'ai toujours eu l'idée, et maintenant je peux en parler plus posément, et sans crainte justement d'être... Parce que quelquefois, les gens vous obligent, et vous n'êtes pas obligé de répondre, d'ailleurs c'est ce que je fais, à des prudences. Et il y a eu cette querelle, non, de l'abstrait, des figuratifs, et des choses comme ça. Et pour moi, j'ai toujours considéré que mon travail était figuratif, voilà. Et que d'aborder le corps par l'intermédiaire de la chaise, c'était une manière d'étourder. C'était pas que je n'étais pas capable de faire un corps, mais c'était que je pouvais faire penser qu'un corps pouvait y être. Voilà. Et ça m'a amusé pendant quelques années. Voilà. Ça continue à m'amuser d'ailleurs.
Et pour préciser, comme on est à la radio, il ne s'agit pas de sièges ou de fauteuils archi-figurés, je dirais. Mmh. C'est justement très stylisé, très épuré, presque abstrait, mais ça ne l'est pas. Effectivement, ce sont des formes qui ne sont pas non plus symboliques, vous êtes vraiment entre les deux.
Oui, oui.
Vous êtes, comme vous l'avez bien dit, figuratif, mais c'est pour dire que ça n'est pas du figuratif qui veut approcher la réalité, c'est pas ça. On est dans des formes très épurées, très aériennes ou très fondamentales, quoi, comme une architecture. Alors, le nom de vos expositions, le nom de vos livres parle d'archéologie intérieure, puisque c'est le titre de ce livre, mais c'est le titre de l'exposition, c'était aussi le titre de la grande rétrospective du musée Ferney-Branca. Votre travail qui n'est pas abstrait, mais qui est figuratif, mais il est figuratif, j'allais dire, dans ses grandes lignes fondamentales, dans ses fondations, comme pour une maison, comme en architecture. On va retrouver des triangles, des roues, des colonnes. Ça peut paraître comme ça de prime abord très basique, géométrique, et en fait, on est au-delà de ça. Parce que quand on voit effectivement un siège, une de vos sculptures, comme un siège, et qui vous invite à vous asseoir dessus, qui symbolise ce corps absent, on n'est pas dans quelque chose de très figuratif. C'est pas la chaise de Van Gogh, c'est pas la chaise... Et encore celle-là, elle est mythique aussi.
Elle est mythique,
bien sûr.
Bah, mais elle m'a probablement beaucoup influencée, beaucoup touchée, oui. Sûrement, oui, oui. Là, vous touchez quelque chose de... d'assez juste, c'est-à-dire, en tant que sculpture, si vous voulez, ça ne m'intéressait pas, par exemple, de faire en pierre une chaise. Voilà, ça serait, là, je trouve, quelque chose d'assez pauvre. Ce serait une simple représentation. Et puis, avoir recours, par exemple, à des sièges archaïques, on est plus proche, puisque, justement, on s'aperçoit que la stylisation des sièges au cours de l'histoire de l'humanité, s'est départie de plus en plus et cherche à se départir du corps. Bon. Et de temps en temps, maintenant d'ailleurs, il y a un certain retour où on signifie presque certains éléments du corps. C'est très curieux, voilà. Au fond, moi je fais ce que je peux, je m'amuse avec toutes les images que j'ai vues, que j'ai rencontrées, et puis je fais mon siège. Voilà.
Alors, avec ce corps dont on finit toujours par parler, là, de question en question, je vous cite. C'est un texte que vous avez écrit qui s'appelle Marel. L'équilibre du corps, toujours en jeu, à cloche-pied, il faut aller plus loin. Comme dans la Marel, persane, sauter de maison en recoin, de fatigue en étoile et d'étoile en autre monde. Le dessin du jeu de Marel se transforme au gré des croyances, des lieux et du temps. Sur les trottoirs sont tracés à la craie fait rêver, y sont nommés parfois le soleil, la terre, la lune, l'enfer et la prison. Surgissent dans la mémoire la litanie des chiffres, les chansons et ritournelles, comptines et petits vertiges. Ce jeu qui s'amuse de toutes les perspectives en mettant le point de fuite sous le pied lève toujours chez moi des désirs de voyage. Alors vous avez fait de grandes marelles. Il n'y a rien à dire quand on vient de lire ça.
Mais non, vous écoutant, parce que moi j'avais oublié ce texte, ça dit vraiment toute une mécanique, finalement. Voilà, les marelles, c'est né un petit peu...
Où est-ce que le public peut voir vos marelles?
Alors, il y en a une au Caire,
oui.
Dans le parc international, et puis il y en a une aussi à Bruxelles, qui est enfermée dans une cour, pas selon ma volonté, hélas. Et ni même au Caire, d'ailleurs, elle a été posée dans un endroit qui n'était pas vraiment prévu pour elle. Il y avait un premier endroit, et puis il y a eu tout un problème aussi de censure qui ont fait qu'elle a été déposée ailleurs. Mais elles ont le mérite toutes les deux d'exister en tant que sculpture, voilà. Elles ne sont pas dans l'environnement idéal dans lequel je les aurais souhaitées, mais... Voilà, on peut les voir là et puis on peut les voir dans l'atelier. Et j'espère, je souhaite absolument, j'aimerais pouvoir réaliser, là je fais presque un appel, là, parce que c'est un thème qui me tracasse depuis assez longtemps et jamais je n'ai pu l'amener jusqu'au bout. C'est-à-dire parce que je voulais justement qu'elle ait un rapport aussi avec l'écriture et j'avais fait appel. Et cet appel, certains y ont répondu et puis il peut être... comment augmenter un certain poète, parce que de cette marelle, je voulais en faire comme une espèce de tapis d'écriture, voilà, où chaque case répondait à une autre case. Et voilà, donc elle pourrait être un jour réalisée, soit en Europe ou n'importe où.
Une marelle de très grande dimension, parce qu'autrement, oui, bah, vous en avez réalisé qui ont été achetées par des particuliers.
Oui, oui, mais qui sont... Non, aucune.
Aucune n'a été...
Aucune n'appartient à un particulier.
D'accord.
Enfin, à Bruxelles, oui. Il y a eu l'histoire d'un particulier, puis après ça, elle est devenue semi-publique, publique, enfin, c'est toute une longue histoire.
C'est comme un grand tapis, donc au sol, fait de différentes pierres, alors du
voilà,
marbre,
où j'aimerais
ça dépend,
mêler la pierre et l'écriture, voilà, et puis... Mais évidemment, ce n'est pas une marelle à jouer. Enfin, c'est-à-dire, on peut y jouer. Moi, j'ai vu, par exemple, sauter des enfants et même des adultes sur ces marelles. Alors, il est évident qu'il faut des pattes géants ou refaire. Mais c'est l'évocation, quoi. C'est l'évocation de ce jeu.
Alors, avant de nous séparer, on va parler d'une autre partie de votre œuvre qui vous tient particulièrement à cœur, qui est ce que vous appelez le site transitoire. J'aimerais que vous nous présentiez à la fois le lieu et puis ce qu'on y trouve. D'abord, c'est en Toscane.
Oui.
Ce sont sur des collines, des crêtes. Ça compte, les crêtes, dans, dans votre travail. Oui. Hein. Pourriez-vous nous décrire votre rencontre avec ce lieu, d'abord ?
La rencontre, c'est très simple. C'est toujours une histoire de cailloux. C'est en allant chercher des blocs de travertin dans une carrière, qui est la carrière de Rapolano, Rapolano Terme, où il y a des carrières d'un travertin assez spécifique, d'une certaine couleur, et dont j'avais besoin à une certaine époque pour réaliser, justement, on va revenir à la marelle, parce que c'était pour réaliser la première marelle un peu monumentale que j'avais l'intention de faire. Mais je la travaillais à ce moment-là dans les ateliers vers Pietrasanta et Carrare, où j'exécutais mes sculptures. Et en allant visiter ces carrières, en allant acheter ces blocs, j'ai traversé donc ce lieu des crêtes. Alors les crêtes, c'est évidemment, ça n'a pas du tout la même... C'est un mot italien, ça veut dire l'argile. Quoi. C'est, et alors ce sont des terres d'argile qui sont au sud de Sienne et qui offrent un spectacle absolument extraordinaire, selon moi, de beauté et d'austérité. Et donc je m'étais promis de revenir un jour dans ce lieu-là pour réaliser une chose qui me trottait déjà en tête. C'est-à-dire que c'était un petit peu... concomitant avec le travail des marelles. Il y avait ce siège, cette fenêtre, ce sarcophage et ce labyrinthe que je voulais un petit peu organiser, mettre en scène, si vous voulez. Voilà.
On ne peut pas dire que c'est une sculpture, hein. C'est une sculpture monumentale avec plusieurs éléments.
Pour moi, c'est une seule et même sculpture.
Voilà, mais avec, pour qu'on se la visualise, plusieurs éléments. Siège, une fenêtre ou une porte, je ne sais pas comment les gens
l'aperçoivent. Une fenêtre ou porte, ça dépend comment les gens l'aperçoivent.
Oui. Une marelle d'ailleurs, enfin, il y a aussi au sol...
Oui. En général, je travaille toujours deux ou trois œuvres en même temps, donc il y en a une qui nourrit l'autre, et là on retrouve effectivement des traces, des clins d'œil faits à la marelle, parce que la marelle a précédé effectivement ce travail, mais comme tout se chevauche, et comme c'est sur des longs temps, on abandonne l'un, on finit l'autre, voilà. Et ces sculptures forment un lieu, voilà, forment un lieu. Et pour moi, je dis toujours que c'est une sculpture. D'ailleurs, il n'y a qu'un titre unique, site transitoire, voilà, composé d'éléments qui se répondent les uns aux autres. Et puis qui établissent comme ça un dialogue entre elles et avec la nature aussi.
Avec la nature.
Bon, enfin, tout ça, ce sont des grands mots, ce sont les écrivains qui racontent cette histoire.
Avec la nature, parce que quand même, vous ne les avez pas placées n'importe où, par rapport justement au soleil pour qu'elle puisse jouer avec,
tout à fait.
J'allais dire avec les étoiles, mais avec les astres, avec notre...
Oui, elle joue en tout cas avec d'abord avec les saisons, par leur isolement comme ça en pleine nature, donc on peut voir les différences aussi de lumière et de couleur, et par rapport à la lumière justement avec les solstices, et notamment là elle est axée selon le solstice d'été, où un des derniers rayons du jour du solstice vient taper un miroir qui est dans le siège, justement, qui fait face à la fenêtre. Voilà. Ce siège qui est sexué, si vous voulez, parce qu'il est très féminin, et dans un triangle, il y a tout d'un coup un éclair, juste au moment de la disparition du soleil. Voilà. Mais n'y voyez aucun symbole, c'est venu comme ça, naturellement. Voilà.
Alors cette fenêtre qui s'ouvre sur l'espace, hein, sur un coin de ciel, si ça dépend de l'endroit où on se place. Elle a une forme particulière sur laquelle vous avez travaillé. Vous m'avez expliqué ça l'autre jour. Est-ce que cette fois, cette ouverture, vous m'avez dit qu'elle reprenait, pas les dimensions, ou alors j'ai peut-être mal compris,
les dimensions ou l'envergure
du corps humain.
Oui, parce qu'au fond...
Et on revient au corps.
Voilà. Bon, alors, d'accord, très bien. Ben, ça va être l'occasion de vous montrer que je suis figuratif. Voilà. En fait, ce travail, ce dispositif, moi je voulais signifier les trois attitudes, les trois positions les plus élémentaires de l'homme, c'est-à-dire couché, assis et debout. Et cette position verticale, je ne savais pas du tout comment la signifier, parce que je ne voulais pas qu'elle soit bouchée. C'est pour ça qu'est née la fenêtre.
Voilà. Voilà. Et au lieu d'être un rectangle basique, bon, cette fenêtre voilà. de Matisse, là, c'est pas ça.
Non, elle a pris
une forme particulière.
Voilà, et puis je me suis aperçu, sans m'en rendre compte, effectivement, qu'elle prenait la forme élémentaire du cercueil. C'est-à-dire qu'on découpe l'envergure. Alors après, on a toutes les références. Et j'en ai fait un sarcophage, puisque au fond, la position couchée, que je ne savais pas non plus parfaitement, parce que j'avais fait déjà de nombreux sièges, j'aurais voulu y mettre un lit. Et pour signifier la chose, le siège, le lit. Et puis c'est devenu le sarcophage, puisque c'est devenu l'évidement de cette fenêtre. C'est là que je me suis aperçu en évidant, en faisant cette forme. Je me suis dit, donc il me faudra un grand bloc. J'évide et je pose ce bloc que je vais extraire de l'intérieur de la fenêtre. Si je le couche, j'ai la position couchée. Voilà. Puis c'est comme ça. Mais vous savez, on ne réfléchit pas à tout ça. C'est le cours du travail qui nous amène ces solutions.
Vous aimez que vos œuvres vivent in situ.
Oui.
Donc, chaque année, il y a une fête au site transitoire.
Oui, alors c'est cette
Ou ça s'est fait sans vous, ça?
Presque. Enfin, je ne sais pas, ça s'est fait... je ne sais pas, c'est la Providence.
Ça existe.
Ça existe peut-être. C'est très curieux parce que quand j'ai fait ce travail, d'abord, moi, j'avais besoin d'un grand silence et je l'ai fait dans le silence. Et c'était voué au silence. C'était... Je trouvais, alors c'est toujours prétentieux de dire ça, parce que, au fond, mais c'est pour ça que je me suis retiré, et puis que j'aimais bien cette solitude de cette campagne, qui à l'époque était beaucoup moins fréquentée qu'aujourd'hui, et au fond, j'aurais bien aimé qu'elle reste là, comme ça. Mais j'avais pas d'idée préconçue, je savais pas si c'était pour 5 ans, pour 10 ans, pour 20 ans. C'était un grand luxe, d'ailleurs, de pouvoir faire une chose pareille, au-dessus de mes moyens. Et donc, spontanément, à la fin d'une exposition que j'avais faite à Sienne, un concert a été improvisé et a donné l'idée qu'effectivement, il pouvait y avoir sur ce lieu, de temps en temps, une manifestation. Puis à partir de 2000, il y a eu effectivement, chaque année, un événement. Alors que je tiens à ce que cet événement ne soit qu'un soir, voilà, de chaque été.
Donc ça peut être une pièce de théâtre, un
Alors
concert.
C'est soit une pièce de théâtre, soit un concert, soit une chorégraphie. Voilà. Ouais. Alors peu à peu, c'est greffé effectivement une petite organisation. Voilà. Et il y a une association qui s'est formée et qui s'occupe de cette chose-là. Et voilà. Donc tous les ans, il y a effectivement un événement comme ça. L'année dernière, il y avait une chorégraphe, Lisbeth Grouet, qui est venue de Belgique et qui a fait un événement de grande qualité. Puis il y a eu, bien sûr, plein d'autres choses précédentes. Antonio Tabucchi a écrit une ou deux fois pour ce... Enfin, deux fois exactement. Et puis, Antonio Prete, Bernard Noël.
Ça, ce sont les poètes qui vous accompagnent.
Tout
au long de votre vie, d'ailleurs.
Ben oui. En l'occurrence, Bernard Noël, Antonio Prete ont vraiment... épauler d'une part ce travail et puis surtout ce lieu aussi. Voilà.
Alors on n'a pas abordé le thème des Pietà, on n'a pas parlé de vos œuvres gravées sur marbre qui sont comme des dessins. Alors excusez-moi, c'est avec mes termes. Hein. Ce sont des marbres gravés, colorés, très peu mais un petit peu. Vous faites aussi des collages, vous faites de grands dessins aussi bien entendu. On n'a pas abordé cette partie plus graphique de votre travail. Ça sera pour une prochaine fois.
Oui, là, il faut inviter les gens à aller voir l'exposition à la Galerie Jeanne Buchet.
Exactement. Votre actualité actuelle en ce moment, Jean-Paul Philippe, c'est l'exposition Jean-Paul Philippe à la Galerie Buchet qui présente, en fait, j'allais dire en réduction, vraiment l'équivalent de la grande rétrospective qui a eu lieu en Alsace.
Voilà.
Et on peut y voir absolument, entre guillemets, tout ou un peu de tout, voilà. Du tout plutôt, à savoir des sculptures, des dessins, des sculptures réduites du site transitoire, même une marelle.
Il y a l'évocation de la marelle avec quelques dessins sur marbre et puis les ostracas qui sont des petites choses que j'ai faites au moment de la réalisation de la Grande Marelle en Égypte. Voilà.
Ah oui, les ostracas, ce sont des petits... j'appelle ça des collages, mais c'est des collages avec des matériaux, c'est
avec
pas des collages sur papier.
Des matériaux trouvés comme ça sur place et sur la carrière elle-même.
Elle-même. Donc là, c'est une très très belle exposition. La Galerie Bucher vous suit depuis les années 1980.
Oui, les premières expositions que j'ai faites, c'était en 80. Voilà.
En 80. Et le 22 mars, vous présentez à la Galerie Bucher, justement, une lecture.
Oui, c'est Bernard Noël qui va lire quelques textes, justement, relatifs à ce livre.
C'est à l'occasion d'une signature qui est organisée par la Galerie, une signature de l'ouvrage Jean-Paul Philippe, Archéologie intérieure au pluriel, publié à Bruxelles par le Fonds Mercator. Et à l'occasion de cette présentation d'ouvrage, il y aura une signature, une lecture, et je crois même de la musique ou du chant.
Voilà, il y aura la présentation d'un film.
Oui.
Qu'a fait Thésée.
Un film sur votre œuvre.
Voilà, c'est un petit peu un parcours comme ça, qui regroupe trois choses un petit peu. L'atelier à Paris, l'atelier en Italie, et puis l'exposition justement de Saint-Louis. Et à cette occasion, il y a un accompagnement musical pour ce film, et il y aura Marianne Dédage qui viendra sur un poème de Bernard Noël, comme ça chanter quelques vers qui ont été mis en musique à cette occasion. Voilà.
Alors dans cette jolie fête qui s'annonce, c'est une façon de fêter tous les arts réunis, vous lancez ce jour-là, le 22 mars, une souscription pour le réaménagement, la restauration du site transitoire, justement, en Toscane.
Oui.
Et là, comment le public peut-il vous aider?
Ah, en mettant la main à la poche. Non, mais je ne sais pas. Vous savez, voilà, cette association vit.
Une association des amis du site transitoire.
Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on a pu, de temps en temps, produire justement quelques spectacles. Avec l'aide, effectivement, de cette association, dont la présidente est Alessandra Rey, alors je pense qu'il faudra probablement s'adresser à elle. Cette association a pour but de promouvoir ces spectacles, et puis surtout la sauvegarde de ce lieu. Parce qu'en Italie, en Italie et partout dans le monde, les œuvres d'art sont souvent en péril. Et là, en l'occurrence, il se passe une toute petite chose qui n'était pas tout à fait prévue dans le programme. Mais il faut faire avec les volontés de la terre. Et là, c'est un terrain d'argile extrêmement difficile. Et les fondations de cette sculpture n'ont jamais été prévues pour une durée vraiment aussi longue. Voilà, maintenant, elle semble là, elle a fait ses racines.
Et les gens l'ont adoptée.
Voilà, les gens l'ont adoptée et c'est assez étonnant. Moi, j'avoue que c'est ma première surprise parce qu'il y a une acceptation de tous les gens du territoire pour cette chose-là, voilà. Moi, j'en suis très, très touché et très heureux, mais c'est toujours un petit peu grave de voir qu'il y a un petit péril dans la mesure où les fondations n'ayant pas été faites pour une longue pérennité, il faut la stabiliser, voilà. Donc, il faut un petit peu un démontage, la remonter, tout sera remis parfaitement en ordre, mais au moins, elle pourra ne pas craindre les intempéries, voilà.
Et elle nous permettra d'être...
Et donc cette année, contrairement aux autres années où, en général, on organise un spectacle, une création, vraiment, et cette année, ce sera simplement un banquet, mais un banquet quand même musical. Il y aura automatiquement une intervention, mais de moindre mesure, mais on fait un petit peu appel à tout le monde pour pouvoir restaurer cette... J'aime pas beau le mot restauration, parce qu'elle n'a pas besoin d'être restaurée, elle a besoin d'être rééquilibrée par rapport au terrain.
Voilà. Bon, eh ben merci beaucoup, Jean-Paul Philippe, d'être venu au micro de Canal Académie. Vous avez reçu le prix de sculpture d'El Duca en 2011, un prix décerné par l'Académie des Beaux-Arts et la Fondation d'El Duca. Je rappelle simplement que l'exposition organisée à la Galerie Jeanne Bucher est prolongée jusqu'au 7 avril 2012, peut-être quelques jours encore supplémentaires. Elle était initialement prévue du 9 février au 31 mars 2012. Et voilà qu'elle se prolonge devant le succès. Et puis, je signale également les deux livres. Jean-Paul Philippe, Archéologie intérieure, dont on a beaucoup parlé du fonds Mercator, et puis également le catalogue Jean-Paul Philippe, cette fois, qui reprend l'exposition présentée actuellement à la Galerie Buchet. Et puis, j'invite tous nos internautes à regarder la visite virtuelle de l'exposition qui vous a été consacrée au musée Ferney-Branca à Saint-Louis, entre Mulhouse et la Suisse, qui portait le titre de Jean-Paul Philippe, archéologie intérieure, justement. Et c'est une visite virtuelle assez fascinante qui donne un très bel aperçu de votre travail, à défaut d'y aller. Et j'invite nos internautes à se rendre évidemment au site transitoire, s'ils le peuvent, un jour ou l'autre, pour attraper les nuages.
Ben, d'abord, j'étais très, très content, heureux de recevoir ce prix. Et d'abord, je voudrais remercier tout le monde.